أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous sommes dans le cadre du dogme islamique. Comme prévu, mes chers frères et sœurs, nous avons commencé en réalité de parler de ce qui concerne Allah subhanahu wa ta'ala, de par son existence jusqu'à ses attributs. Dans la séance passée, nous avons parlé de l'attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la gestion de l'univers. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre que lorsqu'on dit Allahu Rabbu samawati wal ard, c'est qu'il est celui-là même qui gère l'univers entier. Il est le gestionnaire en quelque sorte des cieux et la terre. Dans ce cadre-là, cela est mentionné dans plusieurs versets que nous avons relatés, sitôt l'une de ces versets. Et en ce qui concerne en réalité la question qui se pose à ce sujet, c'est une question aussi d'une importance capitale. Si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui gère tout ce qui se trouve dans ces bas mondes et dans les cieux, et comment nous pouvons essayer d'évaluer, de valoriser, je vais m'exprimer ainsi, l'exact que nous posons sur cette terre, s'il s'agit des actes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour répondre à cette question, il y a certaines personnes qui se sont attardées à dire concernant le commentaire de ce verset coranique, ce qui dit « Allahu khaliqu kulli shay » Donc Dieu, il est le créateur de toutes choses. Et ça fait partie de ces choses, le fait que l'être humain puisse gérer ses propres affaires, ça fait partie de ces choses, sa vie individuelle, la vie sociale, etc., ses économies. Il s'agit là de la gestion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'être humain n'a rien à faire, mais c'est seulement que Dieu qui intervient directement. Et dans les émissions passées, mes chers frères et sœurs, nous avons essayé de répondre à cette question disant que c'est vrai, Allah, il est le créateur de ces bas mondes, tout ce qui contient entre le ciel et la terre. Donc sous la terre, dans les cieux, bien sûr. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé ainsi, mais il a donné la gestion de certaines affaires de façon continuelle ou qui est rattachée, cette décision qui est rattachée, lui, à sa propre volonté, qui a confié soit aux anges. Et c'est ce que nous avons rencontré dans le Saint-Coran, que Allahu yatawaffa al-anfus, lorsqu'on parle que c'est Dieu qui opte, qui retire les âmes, et aussi il a dit qu'il a essayé de déléguer l'ange de la mort pour retirer les âmes. Donc entre ces deux versets, il n'y a pas d'opposition, mais c'est plutôt un relais de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et jusqu'à un ange de la mort qui est Azraïl. En réalité, mes chers frères et sœurs, il n'y a pas d'opposition. Parce que lorsque vous regardez ce monde, vous allez trouver la gestion de ce monde se divise en deux parties. Il y a ce qu'on appelle At-Tawhid al-Rubub istiqlali, c'est-à-dire que l'unicité dans la gestion des affaires de ce monde de façon indépendante. C'est-à-dire que quoi? Sans l'intervention ni d'ange ni d'être humain. Et il y a ce côté aussi, l'unicité de Dieu dans la gestion de ce monde de façon relative. Je vais dire par là de façon relative, c'est comme si c'est donné à l'être humain, en réalité, de gérer ses propres affaires avec ses propres volontés, et etc. Dieu, il est le gestionnaire de ce bas monde. Mais dans cette gestion, ça fait partie qu'il puisse donner la volonté à l'être humain et l'être humain puisse mettre à l'usage cette volonté pour que réellement qu'il soit responsable de tout ce qu'il va poser et profiter d'ailleurs des actes positifs qu'il va essayer de poser dans ce bas monde, qui vont en paix, en harmonie avec les recommandations divines. Donc en réalité, lorsque vous regardez le monde est géré de la sorte, c'est un relais à partir de Dieu, hein, qui est descendant vers nous. Les anges ont une part, Dieu a une part, les êtres humains aussi ont une part en ce qui concerne la gestion de ce monde et leurs propres affaires. Et c'est ce que nous constatons, mes chers frères et sœurs, il y a plusieurs exemples qui nous entourent, et c'est ce que nous constatons dans nos propres habits, nous sommes gestionnaires, on coud l'habit que nous voulons, on essaie de mettre ou de coudre les habits avec des modèles précis. Et donc, en réalité, lorsque vous essayez de voir précis, lorsque vous essayez de voir ces modèles précis, vous allez trouver que ça fait partie de la créativité de l'être humain. Et c'est ce qui est d'ailleurs dans le jargon de nos jours, et c'est ce qui est plus utilisé. Selon les modélistes, on parle des modélistes, etc. On ne s'arrête pas là. Il y a aussi l'environnement. Dieu a donné cette potentialité à l'être humain de façonner son environnement. Et aujourd'hui, regardez l'environnement dans lequel nous vivons et l'environnement de ceux qui nous ont précédés dans l'histoire. Et vous allez trouver aujourd'hui, il y a une évolution considérable dans ce cadre-là. Et cette considération, en réalité, provient réellement de l'être humain et de Dieu et des anges, etc. Donc, mes chers frères et sœurs, si Allah subhanahu wa ta'ala veut faire descendre son bonheur, ce sont les gens qui sont transporteurs de ce bonheur-là vers nous. Donc lorsque le bonheur arrive vers nous, la subsistance, la vie et la santé, mes chers frères et sœurs, donc en réalité, c'est comme si nous sommes en train de poser en tant que des êtres responsables des actes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi en train de nous donner cette volonté, il nous donne cette volonté et réalité pour qu'on puisse réellement être des responsables dans ce sens-là. Donc, nous devons essayer, en un clin, en résumé, croire qu'il n'y a aucun gestionnaire de ce bas monde, de tout ce qui se trouve. Il n'y a aucun gestionnaire en dehors de Dieu, et c'est ce qui veut dire l'unicité de Dieu en réalité dans la gestion de ce bas monde et dans ses affaires. Donc, en réalité, lorsque vous regardez cette gestion, ça vient étape de façon graduelle, étape par étape. Ce sont les étapes qui sont là, et soit de transporter, soit de haut vers le bas, ou le bas vers le haut. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, nous devons essayer de comprendre la gestion de ce monde de telle façon. Pas pour dire que Dieu, il est celui-là même qui agit directement dans tout ce que nous posons comme acte. C'est tout à fait une erreur de considérer Dieu dans ce sens, parce que lorsque nous faisons des péchés, c'est comme Dieu, il est en train de poser ses péchés, qu'ils soient exaltés complètement. Et lorsqu'on pose des actes, des bonnes œuvres, c'est comme Dieu, il est en train de poser ses œuvres-là. Donc, c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui pose les œuvres, et il se donne lui-même des recommandations, il s'interdit des choses, et il se donne des recommandations. L'être humain n'a qu'un choix, donc l'être humain est là comme un robot, non. Ce n'est pas l'enseignement de l'islam. L'enseignement authentique de l'islam, c'est que nous sommes des êtres volontaires. Nous avons des volontés et nous devons forcément jouir de cette volonté. Cette volonté n'est pas dissociable de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc nous avons expliqué que la volonté de Dieu est de telle sorte que nous soyons vraiment des personnes qui puissent répondre directement aux actes que nous puissions poser. Donc la responsabilité, on ne peut exprimer la responsabilité que dans le cadre lorsque nous avons choix d'agir et de ne pas agir. Et c'est ce que le Coran nous dit: Inna hadayna us-sabilayn imma shakiran wa imma kafura. Nous avons essayé de guider l'être humain sur les deux voies. Les deux voies, c'est-à-dire que imma shakiran, soit il devient reconnaissant envers Dieu, c'est de respecter la recommandation d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou kafura, ou il devient rebelle totalement à tout ce que Dieu a accordé comme subsistance, la vie et autres, l'intelligence, lui et la vue, et etc., il devient rebelle à Allah subhanahu wa ta'ala, que le Seigneur nous en garde. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, nous devons comprendre la gestion de Dieu, l'unicité de Dieu dans la gestion de ce monde, nous devons comprendre cette formule-là. Et c'est ce qui est réellement la formule authentique, et c'est ce qui rend nous responsables devant Dieu. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez le Coran ne fait que qualifier ceux qui posent des bonnes œuvres. Donc s'il y a qualification, c'est qu'il y a quelque part un choix d'agir ou de ne pas agir, ou de laisser ou de partir vers. Donc en réalité, mes chers frères et sœurs, vous êtes d'accord avec moi que dans ce sens-là, nous devenons catégoriquement responsables de tout ce que nous posons dans ce bas monde-là. C'est pour cette raison que nous avons insignifié cela. L'âge de la puberté, cela veut dire que quoi? Tout acte, toute recommandation devient obligatoire à la personne humaine lorsqu'il atteint l'âge de la puberté. Et ici, l'âge de la puberté, mes chers frères et sœurs, ça, c'est comme si ça met réellement en jeu notre responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Vous voyez, même dans l'environnement dans lequel nous vivons. Donc, mes chers frères et sœurs, nous avons compris cela et nous pouvons progresser avec la leçon du dogme islamique concernant, mes chers frères et sœurs, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a encore d'autres attributs. Nous avons essayé, si vous vous rappelez, mes chers frères et sœurs, de départir ou de partager ou de diviser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en deux. Le premier, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala positifs, as-sifatu as-thubutiyya, et il y a aussi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala négatifs, as-sifatu as-salbiyya. Et nous sommes dans ce cadre, mes chers, tout ce que nous allons essayer encore de retoucher une fois de plus ces attributs-là, les autres attributs, inshallah. Mais il faut comprendre, comme rappelle, mes chers frères et sœurs, nous avons essayé d'expliquer les attributs négatifs de Dieu. Il ne s'agit pas de la négativité dans la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala, non. Mais il faut considérer cette négation dans la phrase qui est utilisée. Lorsque nous disons que Dieu il n'a pas d'associé, c'est une phrase négative. Donc, en même temps, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en réalité, il n'a pas engendré, il n'a pas été engendré, etc., etc. Mes chers frères et sœurs, ça fait partie des attributs, donc les phrases négatives. Oui, souvent, il y a des titres qui reviennent. Lorsqu'on parle de At-Tawhid, masalan, et par exemple, on dit At-Tawhid, l'unicité de Dieu. En réalité, le mot, il n'y a pas de négation, mais dans le fond de ce thème-là, vous allez trouver une négation. L'unicité de Dieu veut dire que Allah, il est unique, il n'a pas d'associé. Donc, dans ce cadre-là, mes chers frères et sœurs, il faut comprendre, c'est dans ce sens qu'il faut comprendre les attributs négatifs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, il faut comprendre que si nous acceptons les attributs négatifs, parmi les attributs qui soient vraiment applicables à Allah subhanahu wa ta'ala, cela va nous amener réellement à nier beaucoup de choses concernant Dieu, le très haut. C'est-à-dire que quoi? Si nous acceptons réellement que Dieu il a un associé, s'il a un associé, cela veut dire que lorsque nous avons dit qu'il y a l'existence par obligation, qui est imposé, imposable en réalité. Donc en réalité, cette existence n'aura pas de valeur. Parce que nous avons défini que cette existence, d'abord, elle est absolue. Cette existence, elle est absolue. Il n'a besoin d'autre chose. Il est la cause principale de toute chose que nous voyons, toute créature. Et il n'a pas de début ni de fin. Donc lorsque nous parlons qu'il a un associé, mes chers frères et sœurs, et c'est ce que de mettre fin à la démarche que nous avons prise pendant ce temps. Donc en réalité, Dieu, il a ses attributs négatifs que nous pouvons aussi énumérer. Dieu, il n'a pas de corps physique. Il n'est pas physique, cela dit que quoi? Parce que le fait d'être une chose, un objet soit physique, a besoin de deux caractéristiques, de trois caractéristiques au moins. La première caractéristique, il faut que cette chose ait vraiment une longueur. Et cette chose ait une largeur et une profondeur. Pour qu'on puisse réellement la voir. Vous voyez? Parce que ça fait partie des caractéristiques des éléments physiques. Hein? C'est trois entités, mes chers frères et sœurs. Donc, lorsque on dit que Dieu, on n'est pas un corps, si on accepte que Dieu, il a un corps physique, comme d'autres savants essaient de l'expliquer, cela va nous faire revenir, mes chers frères et sœurs, à ce thème, à ce mot que nous avons refusé dans le premier temps, que Dieu, il n'est pas composé, parce que toute composition a besoin des autres parties de sa composition, hein, des autres parties composantes. Donc, en réalité, lorsque vous regardez, si vous composez une table, il y a la table qui est là, il y a les pieds, il y a les pliés. Les pliés ont besoin, la table a besoin, hein, l'autre a besoin réellement des pliés pour que ça puisse former une table. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il est exalté en quelque sorte, en réalité, de cette chose, le fait qu'il soit composé. Parce que la composition vient lorsqu'on dit qu'il est, par hypothèse, qu'il est physique. S'il est physique, ça veut dire qu'il a ces trois caractéristiques des objets physiques, tout ce qui est matière, dont on parle en réalité de hauteur, profondeur et largeur. Donc, mes chers frères et sœurs, Dieu, il n'est pas physique, aucunement, et c'est ce que vous voyez dans le Saint-Coran, « Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-alim » « Nul n'est égal à lui, il est as-sami' le Dieu et l'omniscient. » Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, tout à fait, lorsque nous essayons de dire que Dieu, il est physique, cela nous fait revenir encore, parce que chaque chose matérielle, lorsqu'on dit physique, a besoin d'une place, hein, qu'il faut se poser, qu'il se doit de se poser sur cette place. Allah subhanahu wa ta'ala aurait besoin, en quelque sorte, mes chers frères et sœurs, d'une place. Alors que nous avons dit qu'il est cette existence absolue, que toute créature, par possibilité, a besoin de lui, il n'a besoin aucunement d'aide d'autre chose, ni d'être composé parce qu'il est très, il est simple, et etc. Et c'est ce que vous verrez avec nous, mes chers frères et sœurs, avec les hadiths de l'imam Rida alayhi salam. Il dit ceci, Subhana man laysa kamithlihi shay, la jisma wa la sura. Imam Rida, il nous rappelle cet enseignement, il dit que Subhana man laysa kamithlihi shay. Qu'il soit exalté celui qui nul ne peut l'égaler. Et il dit la jisma wa la sura. Il n'a pas de corps physique, il n'est pas physique. Wa la sura, il n'a pas vraiment une forme ou une photo. En réalité, mes chers frères et sœurs, ça c'est l'essence et la définition des Ahlul Bayt alayhi salam concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu aussi, il ne se trouve pas dans les directions. Cette direction en face, Dieu ne trouve pas là qu'il soit absent de l'autre côté. Dieu, il remplit toutes les directions. Sa grandeur couvre toutes les directions. Dieu n'a pas de direction. Oui, quelque part, dans les autres religions, telles que le christianisme, il est expliqué quelque part la réincarnation où je vais parler de Al-Hulul. Vous voyez, que Dieu puisse réellement s'incarner à un être physique et venir sur cette terre. Donc, lorsqu'il est physique, il a besoin de ce corps physique. Hein? Il a besoin de la terre pour marcher. Il a besoin de vivre comme nous. Mes chers frères et sœurs, il devient alors besoinier qu'il a besoin de sa propre créature. Donc, en réalité, mes chers frères et sœurs, oui, nous parlons de At-Tajalli, que la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala se reflète sur ce monde. Mais en réalité, qu'il ne soit pas descend de ce monde et qu'il ne soit pas présent dans les cieux, qu'il soit dans cette terre. Mes chers frères et sœurs, cela n'est pas l'enseignement islamique que Dieu remplisse tout espace et tout, et il est au-delà du temps. Il y a encore un autre attribut négatif d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on parle que la composition de Dieu, on dit que Dieu, il y a une union entre des molécules. Dieu n'a pas été composé des molécules. Les entités, même des petites entités, Dieu n'a pas été composé de ces petites entités. Je vais parler de cette union, l'union d'hydrogène et aussi dioxyde d'hydrogène et aussi l'oxygène. Lorsque vous mettez les deux, ça nous fait sortir de l'eau. Mes chers frères et sœurs, cette union n'existe pas dans l'existence de Dieu. Donc, parce que lorsqu'on parle de cela, cette union, ça va de pair avec l'objet physique. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'est pas physique, il n'est pas composé des éléments composantes, il n'y a pas aussi d'union entre les molécules qui puissent donner la naissance à une autre chose. Et Dieu aussi, le côté sentimental que nous avons, la colère, l'amour, et etc., la joie, Dieu ne connaît pas cela parce que ça fait partie des éléments physiques de l'être humain. Donc ça vient des événements, et les événements sont derrière le produit de physique, et effectivement, mes chers frères et sœurs, Dieu n'est pas composé de ses sentiments, et que nous savons, le cœur, lorsque nous sommes fâchés, le corps se bat très vite, et etc. La joie aussi, le sang circule comme si et cela. Dieu n'est pas composé de ces choses, parce que en réalité, ça vient des choses matérielles. Si c'est matériel, c'est composé. Si c'est composé, c'est pas Dieu, mes chers frères et sœurs. Ça fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous ces éléments que nous avons relatés, donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala négatifs. Donc, mes chers frères et sœurs, et je vous verrai, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.